Léon Tolstoï, Contes et fables. Belle la gagne, belle la dépense. Dans une petite ville, au bord de l'Oka, vivait un pauvre passeur nommé Timofeïtch, qui, depuis une dizaine d'années déjà, exerçait son métier si peu lucratif. Le bac avait changé plusieurs fois de propriétaire, mais Timofeïtch était resté passeur. Il était habitué à ce travail qui assurait sa vie. D'ailleurs, comme il était honnête et qu'il ne trompait jamais son patron sur la recette journalière, il possédait toute la confiance de ce dernier. Tout le monde connaissait l'oncle Timofeïtch, et souvent on le recherchait comme parrain. Il n'avait pas amassé beaucoup de biens. En 10 ans, il n'avait pu s'acheter qu'un caftan pour les jours de fête et une pelisse en peau de mouton. Quant au bonnet de peluche, il en désirait un depuis 2 ans. Et chaque fois qu'il allait au marché chercher du pain et des provisions pour 3 ou 4 jours, il ne manquait jamais de s'arrêter devant les magasins. Il contemplait les bonnets, choisissait le meilleur, en discutait le prix, et laissait croire aux marchands qu'il viendrait en faire l'emplette aussitôt qu'il aurait réuni la somme nécessaire. En attendant, il portait de vieux habits. Bien que Timofeïtch fût habitué à son genre de vie, de temps à autre, il enviait ceux qui vivaient mieux que lui. « Voilà, pensait-il, pourquoi Dieu a-t-il donné de la fortune à tel ou tel et rien à moi? Quel triste sort est le mien ?» Et il commençait à se plaindre plus amèrement de sa pauvreté et priait Dieu de lui accorder la fortune. « C'est alors que je vivrai bien, se disait-il. Je n'oublierai pas les pauvres gens. Enfin, je saurai m'y prendre pour vivre comme il faut. » Un jour, Timofeïtch se tenait près de sa cabane lorsqu'il aperçut sur l'autre rive un gendarme qui s'approchait du ponton. Quand cet homme fut sur le bord, il appela Timofeïtch, lui faisant signe d'avancer. « Que me veut-il ? » se demanda le passeur. Il se rendit auprès du gendarme. Avant même qu'il fût près de lui, le gendarme ôta son bonnet, le salua, le félicita et lui présenta ses souhaits de santé et de bonheur. En un mot, il lui débita tant de balivernes que le passeur supposa que le gendarme revenait de quelque joyeuse fête. Et Timofeïtch le regardait sans comprendre. « Nous avons appris, dit le gendarme, que tu es devenu riche. C'est ton oncle, je crois, qui est mort à Rostov, où il a gagné beaucoup d'argent dans le commerce. Et comme il n'a pas d'enfant, tu hérites de tous ses biens. Voilà pourquoi le maire m'a chargé de te féliciter et de te prier d'aller le voir. » Timofeïtch, ébahi, se gratta la nuque, regarda le gendarme qui restait tête nue devant lui, le saluant et lui souriant. « Il y a quelque chose là-dessous, se dit le passeur, car ces gens-là ne se dérangent pas pour rien. « Mais qui a-t-il donc, Miron ? Tu as sans doute fêté l'anniversaire d'un ami ?» lui demanda Timofeïtch. Le garde jura sur tous les saints qu'il était réellement envoyé par le maire. « Viens, ajouta-t-il, il t'apprendra tout. » Timofeïtch se décida à le suivre. Chemin faisant, il cherchait quel pouvait être ce parent de Rostov. Alors, il se souvint d'un oncle qui y vivait depuis longtemps et dont il n'avait plus entendu parler. Lorsque Timofeïtch arriva chez le maire, celui-ci lui dit « Ton oncle vient de mourir à Rostov. Il te laisse 2 de ses magasins et de plus 100 000 roubles. » Sans plus attendre, Timofeïtch fit ses préparatifs de voyage. Mais malgré toute l'assurance du garde, personne ne voulait croire à la fortune inespérée du passeur, ni lui avancer la somme nécessaire pour le voyage. Quant à lui, il ne possédait pas même 5 roubles. Tant bien que mal, Timofeïtch put cependant se rendre à Rostov. Quand le passeur vit toutes les richesses qu'il allait posséder, il ne put d'abord en croire ses yeux. Jamais dans ses rêves il n'avait osé espérer autant. Mais comment gérer cette grande fortune ? C'était pour lui une question bien embarrassante. Il possède tant de traites sur tel marchand, tant sur un autre. Ici, il faut poursuivre, la plaider, etc., etc. Ne pas oublier les échéances. Telle marchandise est envoyée avec un commis à Moscou, une autre à la frontière de Kirghiz. Les commis écrivent qu'ils attendent des ordres. Timofeïtch est ignorant. Il n'a jamais tenu aucune comptabilité, et maintenant il lui faudrait 10 comptables pour s'acquitter de la besogne. Il perd la tête, ne sait plus que faire. Il n'a personne dans cette ville inconnue pour le conseiller. Il est vrai qu'il y a trouvé beaucoup d'amis, mais pour le tromper et le voler. L'un l'invite chez lui, le choix, le fait. L'autre se fait inviter pour la crémaillère. Celui-ci le pousse dans de nouvelles entreprises en lui faisant entrevoir de grands bénéfices à réaliser. Celui-là lui présente des anciens comptes de son oncle, auxquels Timofeïtch ne comprend goutte. En un mot, le pauvre passeur ne sait plus s'il a ou non sa tête sur ses épaules. Il est malheureux, soucieux comme il ne l'a jamais été. Il perd l'appétit, le sommeil. C'est à se donner la mort. Timofeïtch se mit alors à boire afin de s'étourdir. Le nombre de ceux qui l'aidaient à dissiper son argent était incalculable, car on mangeait, on buvait, on faisait bombance, toujours à ses frais. Un jour, il rentra ivre chez lui, prit une lampe qu'il porta dans sa chambre à coucher. Il trébucha et laissa tomber la lampe qui se cassa. Aussitôt, le pétrole s'enflamma. Timofeïtch sortit pour appeler du secours, mais il traversa deux chambres, puis tomba et s'endormit. La maison brûla tout entière, et si on ne l'eût retirée, le passeur eût péri dans l'incendie. Triste fut le réveil du pauvre Timofeïtch. Cependant, il respira librement, se sentant le cœur plus léger qu'auparavant. « Plus de tiraillements maintenant, pensait-il. On ne viendra plus m'obséder par de vaines flatteries, me voler, ouvertement ou non. Je n'aurai plus à courir les tribunaux pour me faire payer ou payer moi-même des traites. Je ne vivrai plus comme un barine, mais enfin je ne boirai plus. Tout est fini, tout a passé comme un rêve pénible. Cette folle richesse qui m'est venue sans effort, si je ne l'ai pas gagnée, du moins je l'ai dépensée. » Il cracha et quitta Rostov. Il revint dans son pays en Laptie, à pied, sans sac de voyage, n'ayant rien à y mettre, se nourrissant en route de ce qu'on lui donnait. Il reprit son emploi et redevint passeur. Depuis cette époque, il vit comme auparavant. Il est déjà vieux. Tout le monde le connaît, l'aime. Et lui, content de son sort, tire la corde du bac et ne demande plus de richesses à Dieu.
Pourquoi un moujik aima son frère aîné ? Histoire vraie. J'aimais déjà beaucoup mon frère aîné, mais je l'aime plus encore depuis qu'il m'a remplacé sous les drapeaux. Voici comment la chose se passa. Nous tirâmes au sort pour savoir lequel de nous partirait. Le sort me désigna. Et il y avait à peine 8 jours que j'étais mariée. J'étais très affligée d'être obligée de laisser ainsi ma jeune femme. Ma mère se mit à pleurer et dit « Comment, Petrouchka, pourra-t-il partir? Il est si jeune !» Mais il n'y avait rien à faire. On procéda aux préparatifs du départ. Ma femme me fit des chemises, me donna de l'argent, car je devais me rendre le lendemain au bureau du recrutement. Ma mère se désolait, et moi, quand je songeais qu'il fallait partir, je sentais mon cœur se serrer comme si je devais aller à la mort. Le soir, nous étions tous réunis pour le souper. Personne ne mangeait. Mon frère aîné, Nikolai, restait couché sur le fourneau et ne disait rien. Ma jeune femme pleurait. Mon père restait sombre et ma mère avait posé sur la table la kasha, mais personne n'y touchait. ma mère commença à appeler Nikolai pour souper. Il descendit, fit un signe de croix, s'assit à table et dit « Ne pleure pas, ma mère, je remplacerai Petrouchka. Je suis plus âgé que lui, je ne serai peut-être pas perdu. Je ferai mon temps et je reviendrai à la maison. Quant à toi, Piotr, pendant mon absence, protège mon père, ma mère, respecte ma femme. » Je devins très gai à cette nouvelle. Ma mère cessa de pleurer et l'on commença les préparatifs du départ de Nikolai. Le lendemain, en m'éveillant, lorsque je songeais que mon frère allait partir pour moi, j'eus le cœur gros et je lui dis « Ne pars pas, Nikolai. C'est à moi de partir, le sort l'a voulu. » Lui ne répondit rien et continua de se préparer. Moi, je me préparais aussi. Nous partîmes tous deux pour la ville. Arrivé au bureau de recrutement, il se présenta et je me présentai aussi. Tous deux, nous sommes de forts gaillards. Nous restons et l'on ne nous exempte pas. Mon frère aîné me regarda, sourit et dit « Assez donc, Piotr, retourne à la maison. Et ne vous ennuyez pas sans moi. Je pars de ma propre volonté. » Je fondis en larmes et je revins à la maison. Depuis, quand je songe à mon frère, je sens que je suis prêt à donner ma vie pour lui.
La petite fille et les champignons. Histoire vraie. Deux petites filles s'en revenaient à la maison, rapportant des champignons. Elles devaient traverser la voie ferrée et, croyant la locomotive très éloignée, elles grimpèrent sur le talus et s'engagèrent sur la voie. Soudain, on entendit le sifflet d'un train. L'aînée revint en arrière et la plus jeune courut en avant. L'aînée alors lui cria « Ne retourne pas en arrière !» Mais la machine, en avançant, faisait tant de bruit que la petite fille n'entendit pas ce que lui disait sa sœur. Elle comprit, au contraire, qu'elle lui ordonnait de revenir. Elle revint donc sur ses pas et, trébuchant, elle tomba sur les rails où elle éparpilla les champignons qu'elle voulut ensuite ramasser. La machine approchait de plus en plus vite et le mécanicien sifflait désespérément. L'aîné cria « Laisse, laisse les champignons !» Mais la petite, croyant qu'elle lui disait de les ramasser, resta accroupie sur la voie. Le mécanicien ne put arrêter la machine et le train passa sur l'enfant. L'aîné pleurait, criait. Tous les voyageurs étaient aux portières et le conducteur courut à la dernière voiture pour voir ce que la petite fille était devenue. Quand le train fut passé, on la vit d'abord étendue, immobile entre les rails, la tête inclinée. Puis le train s'éloigna. Et l'enfant, relevant la tête, se mit à genoux, finit de ramasser ses champignons et après courut vers sa sœur.
Les deux frères. Conte. Deux frères voyageaient ensemble. Vers le milieu du jour, ils s'étendirent sous les arbres d'une forêt pour se reposer. Quand ils se réveillèrent, ils s'aperçurent près d'eux une pierre portant une inscription. Ils la déchiffrèrent et lurent ce qui suit. « Que celui qui trouvera cette pierre marche dans la forêt vers l'Orient. Sur son chemin, il rencontrera une rivière, qu'il la traverse. Sur l'autre rive, il apercevra une ours et ses oursons. Qu'ils prennent les oursons et qu'ils se sauvent sur la montagne sans se retourner. Là, il verra une maison et dans cette maison, il trouvera le bonheur. » Alors le cadet dit à l'aîné, « Allons ensemble, peut-être pourrons-nous traverser cette rivière, prendre les oursons, les porter dans cette maison et trouver tous deux le bonheur. » Mais l'aîné répondit, « Je n'irai pas chercher les oursons. Et je ne te conseille pas non plus de le faire. D'abord, on ne sait pas si cette inscription est vraie. Peut-être n'est-elle faite que pour attraper les passants. Puis il est possible que nous l'ayons mal lue. Ensuite, en admettant que ce soit la vérité, nous passerons la nuit dans la forêt. Nous ne trouverons pas la rivière et nous nous égarerons. Même en trouvant la rivière, pourrons-nous la passer? Elle est peut-être large et rapide. Et si nous la passons, est-il si facile de prendre les oursons? L'ours peut nous égorger et nous trouverons la mort en fait de bonheur. D'ailleurs, si nous réussissons à prendre les oursons, il ne nous sera pas possible de nous sauver sans nous reposer jusqu'à la montagne. Enfin, il n'est pas dit quel bonheur on trouve dans cette maison. C'est peut-être un bonheur dont nous n'aurons que faire. Mais le cadet reprit. Je ne suis pas de ton avis. Cela n'a pas été écrit sans but sur cette pierre. Et le sens de l'inscription est clair et précis. D'abord, il n'y a pas un si grand danger à courir. Si nous n'y allons pas, un autre pourra découvrir cette pierre et trouver de bonheur à notre place. Si l'on n'a pas de peine, rien dans le monde ne peut vous réjouir. Du reste, je ne veux pas qu'on me croie poltron. L'aîné lui répondit, « Tu sais bien le proverbe. Qui veut trop n'a rien. » Ou bien encore celui-ci. « Un moineau dans la main vaut mieux que la griffe qui vole. » Le cadet répliqua, « Et moi j'ai entendu dire, qui craint la feuille n'aille point au bois. » Ou bien encore, « Sous une pierre immobile, l'eau ne coule point. » Allons, il est temps que je parte. Le cadet s'éloigna et l'aîné resta. Un peu plus loin dans la forêt, le cadet trouva la rivière, la traversa, et sur la rive aperçut l'ours qui dormait. Il saisit les oursons, se mit à courir sans se retourner et gagna la montagne. À peine eut-il atteint ce sommet qu'une foule de gens vinrent à sa rencontre et le transportèrent à la ville où on le nomma tsar. Il régna 5 ans. La 6e année, un autre tsar, plus fort que lui, lui déclara la guerre, conquit la ville et le chassa. Alors le frère cadet se mit à errer de nouveau et y revint chez son aîné. Celui-ci vivait paisiblement à la campagne, sans richesse, mais sans pauvreté. Les deux frères furent bien heureux de se raconter leur vie. « Tu vois bien, dit l'aîné, que j'étais dans le vrai. Moi, j'ai vécu sans tracas. Toi, quoique tsar, songe combien ta vie fut tourmentée. » Le cadet lui répondit. Je ne regrette pas mon aventure de la forêt. Maintenant, je suis déchu, il est vrai. Mais j'ai pour embellir ma vieillesse le cœur plein de souvenirs. Tandis que toi, tu n'en as pas.
La rosée. Lorsque, par une matinée ensoleillée, on va faire un tour dans la forêt ou dans les champs, on voit sur l'herbe 1000 diamants, des brillants aux reflets multicolores, jaunes, rouges, bleus. Quand on les regarde de près, on s'aperçoit que ce sont des gouttelettes de rosée qui glissent sur chaque brin d'herbe et brillent au soleil. La feuille de cet arbre est velue à l'intérieur, comme du velours, et les gouttelettes glissent sur cette feuille sans la mouiller. Et quand on cueille imprudemment ces feuilles pleines de rosée, la gouttelette roule si rapidement qu'on ne la voit pas disparaître. Il m'est arrivé d'enlever cette coupe naturelle et de la porter doucement à mes lèvres et de boire cette rosée. Et je lui trouvais un goût supérieur à la plus délicieuse boisson.
Le gilet. Histoire vraie. Un moujik s'occupait de commerce et y gagna tant d'argent qu'il devint un des premiers négociants de la ville. Il avait 200 d'employés à son service et les connaissait tous par leur nom. Un jour, 20 000 roubles disparurent et les employés principaux recherchèrent le coupable. L'un d'eux vint chez le marchand et lui dit « J'ai trouvé le voleur. Il faut le déporter en Sibérie. » Le marchand demanda « Et qui est le voleur ?»« C'est Ivan Petrov. » « Il a avoué lui-même le détournement, » répondit l'employé. Le moujik réfléchit et dit « Il faut pardonner à Ivan. » L'employé étonné s'écria « Comment lui pardonner ? Mais alors tous les employés l'imiteront et ils gaspilleront tout votre bien. » « Il faut pardonner à Ivan Petrov, » répéta le marchand. Lorsque je me suis mariée, j'étais très pauvre. Je n'avais rien pour me vêtir le jour de la cérémonie. Et il me prêta son gilet. Il faut lui pardonner. Ivan fut donc épargné.